Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Lucas Lazo et Nicolas Sendé, mais aussi Bertille Bourdon et Margot Léridon, réalisée par Alexandra Longuet et à la technique ce matin Théo Gomard. Dernier temps de notre série consacrée au monde de la compétition sportive, sport international des modèles à bout de souffle. C'est la question que nous avons posée toute cette semaine après avoir questionné lundi l'avenir des méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde, la crise financière des clubs de foot européens mardi, l'engagement des sportifs contre le racisme et les violences policières mercredi. Et bien retour ce matin sur un des faits marquants de cette année 2020, la libération de la parole sur les violences sexuelles.
J'avais 11 ans et je jouais au football et j'ai été approché par un entraîneur. Trois ou quatre semaines plus tard, il a demandé à mes parents si je pouvais aller dormir chez lui. C'est là que tout a commencé. Au début, c'était seulement des attouchements sexuels, mais très rapidement, il m'a violée. Personne ne se souciait même de savoir si nous étions ou non abusés sexuellement. Je n'étais pas protégée, et mes coéquipières non plus. Larry Nassar est responsable, la Fédération américaine de gymnastique est responsable, le Comité olympique américain est responsable.
Je me suis dit, bon bah là, il faut que je tape un peu plus fort, on va essayer d'appeler le ministre des Sports, puisque je l'ai rencontré. Il m'a répondu et il m'a dit « Écoute, je vais regarder ce qui se passe et je te rappelle. » Il m'a rappelé. Et il m'a dit « Écoute, Sarah, effectivement, il y a un dossier, mais on va fermer les yeux. » Il y a tout un secret, ils se tiennent tous. L'omerta est très présente. Ce secret, à un moment donné, doit exploser.
C'était il y a presque un an, la patineuse artistique française Sarah Abitbol dévoilait dans un livre les agressions sexuelles que lui a fait subir son entraîneur alors qu'elle était mineure. Des révélations qui ont agi comme un coup de tonnerre dans le monde des sports de glace, déclenchant la prise de parole d'autres victimes jusqu'alors silencieuses. Et le patinage français est loin d'être un cas isolé dans le monde. On pense à la Fédération américaine de gymnastique, dont le médecin Larry Nassar, aujourd'hui derrière les barreaux, a abusé de plus de 265 adolescents. Ou les témoignages de ces footballeurs anglais brisant l'omerta des agressions pédophiles. Des histoires bien souvent similaires, de jeunes athlètes sous la coupe d'entraîneurs tout-puissants, des fédérations complaisantes et le règne du secret, un système dont on peine à évaluer l'ampleur aujourd'hui. Car si les instances du sport commencent à prendre conscience du problème, la prise de parole reste difficile et encore anecdotique. Alors comment expliquer une telle opacité, une telle culture du secret dans le milieu sportif? Quels sont les responsabilité des dirigeants des fédérations? Le milieu est-il prêt à se remettre en question sur ces sujets, à se doter par exemple de nouveaux outils ou de nouvelles instances pour empêcher ces dérives et surtout mettre fin au climat d'impunité? Bien, c'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce matin avec deux invités. Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, où vous dirigez l'Observatoire Genre et Géopolitique. Vous êtes l'autrice de La démocratie féministe, Réinventer le pouvoir. C'était paru cette année chez Kalman Lévy. Et puis, on va signaler aussi le dossier de la revue internationale et stratégique du mois d'octobre, La géopolitique par le genre, que vous avez dirigé. Et avec nous également ce matin, Carole Gomez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également directrice de recherche à l'IRIS. Vous êtes, vous, co-autrice du rapport « Quand le foot s'accorde au féminin ». Alors, en août dernier, un rapport en France de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur le patinage français avait parlé d'un volume d'affaires sans équivalent au plan international. Carole Gomez, on va commencer donc avec cette histoire du patinage. Un an après, on n'a pas fini de prendre conscience de l'ampleur du phénomène des agressions sexuelles dans cette instance, dans cette discipline.
Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui est encore insoupçonné. On est un peu face à la partie émergée de l'iceberg.
Il y a eu une micro-coupure, mais on vous a retrouvé. Allez-y, Carole Gomez.
Parfait. Effectivement, la question de la Fédération des sports de glace a été très largement pointée du doigt, notamment à la suite des révélations de Sarah Abitbol, et qui a permis d'une vraie prise de conscience, et d'ailleurs qui a permis ensuite de pouvoir provoquer une conférence nationale sur ces questions-là, qui a réuni, au-delà du ministère des Sports et au-delà de certaines fédérations, un certain nombre d'autorités publiques pour prendre position sur ces questions-là. Là encore, la question que vous posiez était de savoir est-ce qu'on vient tabou. Clairement non, on n'est qu'au début, c'est un processus qui va prendre du temps et qui aujourd'hui n'en est qu'à son commencement. Et c'est ce que vous disiez en introduction, cette révélation de Sarah Abitbol a permis à plusieurs autres patineuses de révéler des agressions et des viols qui ont été commis depuis la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000. Mais là encore, un certain nombre d'autres enquêtes révélées par Mediapart, par Disclose, par l'équipe, montrent que non seulement on n'est pas au bout de nos surprises, si j'ose utiliser cette expression, mais d'autre part que la Fédération de sport de glace, qui a été pointée du doigt à très juste titre, n'est clairement pas la seule, et que c'est quelque chose qui est au final, contrairement à ce que l'on pourrait penser, répandu dans un certain nombre de fédérations à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale.
On comprend que le chemin va être encore long. Est-ce que dans le milieu du patinage, un an après, est-ce qu'on a à minima tout de même pu identifier déjà les coupables ou les présumés coupables, mais aussi d'établir les responsabilités de ceux qui savaient mais qui n'ont rien dit. Voilà, est-ce que un an après, un certain ménage entre guillemets a pu être fait dans le milieu du patinage, Carole Gomez?
Alors oui, effectivement, il y a eu des révélations qui ont pu être faites. Il y a la mise en cause de Gilles Beyer qui a été faite, hein, la mise en cause également de Didier Gayaguet, et qui a pu montrer qu'il avait été alerté, qu'il avait été mis au courant par un certain nombre de parents, par un certain nombre d'instances propres à la fédération, mais également à l'extérieur de la fédération, et pourtant que certaines choses n'avaient pas, ces dossiers n'avaient pas été traités de façon aussi sérieuse qu'elles auraient dû. Donc il y a eu un vrai renouveau. Nathalie Péchala a été élue à la tête de la Fédération française des sports de glace pour aussi avec cette volonté de un peu, si vous me permettez l'expression, nettoyer les écuries d'Augias, parce que on a mis pendant très longtemps la poussière sous le tapis. On n'a pas regardé en réalité ce qu'étaient ces dénonciations, ce qu'étaient ces plaintes, ce qu'étaient ces remontées d'informations. Et là aussi, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait remonter. Comment est-ce que les athlètes peuvent faire remonter ces informations, comment ensuite est-ce qu'elles peuvent être traitées et comment est-ce que des solutions peuvent être apportées face à ces dérives. Donc ça, c'est là encore, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un processus qui prend du temps. On ne peut malheureusement pas, d'un claquement de doigts, arriver à résoudre absolument toutes les difficultés. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie... J'ai du moins l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience imparfaite, hein, en ce qui concerne certaines fédérations, mais pour d'autres, d'ores et déjà, il y a une vraie volonté d'agir et de ne pas se faire, de ne plus laisser faire ou de ne pas laisser faire des choses qui sont pénalement répréhensibles.
Marie-Cécile Nave, vous partagez ce constat d'une véritable prise de conscience dans le milieu des sports de glace en particulier, mais dans le monde sportif un peu plus en général aussi, sur les questions des agressions sexuelles?
Alors oui, ça commence un peu, mais ce qui est compliqué, c'est d'établir les chaînes de responsabilité. Et vous avez cité en tout début l'enquête Disclose, c'est une enquête remarquable, hein, qui a été menée par les journalistes Mathieu Martinière et Daphné Gastaldi, le revers de la médaille, qui a montré en particulier la culture du silence spécifique au monde du sport, et par ailleurs le poids de l'entre-soi. Le poids d'un monde qui fonctionne en vase clos, et les deux journalistes ont plusieurs fois expliqué que dans l'enquête précédente qu'ils avaient menée au sein de l'Église catholique, ils retrouvaient les mêmes mécanismes de silence, d'omerta, d'un milieu qui est fermé sur lui-même, qui sont tout à fait emblématiques du monde du sport. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont communes à l'ensemble de la société, mais peut-être que dans le sport, c'est encore pire. Et Disclose a aussi mis en évidence que dans les trois quarts des affaires qu'ils avaient recensées dans leur enquête, l'agresseur a poursuivi son activité d'encadrant sportif malgré une procédure judiciaire en cours ou bien retrouvé un poste après une condamnation à caractère sexuel. Or, tout ceci est interdit par le code du sport. Et je voudrais citer une autre enquête journalistique qui est extrêmement poignante, hein, c'est l'enquête qui a été diffusée par Arte et réalisée par Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, qui montre que c'est un phénomène mondial. Donc c'est pas spécifique au sport français, c'est un phénomène mondial. Et ce qui m'a frappée dans ce documentaire, c'est que par exemple les fédérations aux États-Unis, certaines fédérations aux États-Unis provisionnent dans leur fonctionnement des millions de dollars pour des éventuels frais de justice. Donc oui, on sait, ils savent depuis longtemps qu'il y a des problèmes, on le sait. Néanmoins, la chaîne de responsabilité est difficile à établir, mais ça ne passe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une demande sociale, il y a une exigence sociale qui ne passe plus et qui fait que ces choses-là ne passent plus et qu'on ne peut plus, le monde du sport ne peut plus considérer qu'il est à l'abri du droit commun, parce que sur beaucoup de sujets, le monde du sport, dans le monde entier, considère qu'il est à l'abri du droit commun. On le voit aussi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On le voit en France en particulier sur le non-respect de la loi de 2014 sur la place des femmes dans les fédérations. Et le droit existe, la loi existe, et ça existe aussi au niveau réglementaire. Tout est là, tous les outils sont là, encore faut-il s'en emparer. Et on voit, je rejoins ce que disait Carole Gomez, on voit que au niveau ministériel, en France, il y a une véritable volonté d'agir. Encore faut-il que du côté des fédérations, on ait envie de suivre. Et là, malheureusement, on a de quoi être encore assez pessimiste, je crois.
Marie-Cécile Nave, vous citiez ce documentaire « Violence sexuelle dans le sport » de Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac. Je vous propose justement qu'on en écoute un extrait.
Il est difficile pour moi de parler devant cette audience, car c'est vous qui faites vivre ce sport et que je respecte le plus. J'ai lu dans le journal ce matin qu'un entraîneur de l'équipe américaine de natation, à Kissimmee, en Floride, a été arrêté. Il aurait eu des relations sexuelles avec une fille de 12 ans. Cela arrive presque chaque semaine. On reçoit des appels au bureau, on me fait remonter des infos. J'ai très peur que quelqu'un relie tous ces cas et en fasse un documentaire de 60 minutes sur les entraîneurs de mineurs dans des sports comme la gymnastique ou la natation.
Voilà, cette voix, c'est celle de Chuck Vilgus, l'ancien président de la Fédération américaine de natation. Il s'exprimait ici en 2009. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Et on a peut-être là l'illustration de la façon dont fonctionne cette loi du silence, mais vue de l'intérieur. Marie-Cécile Nave, vous parliez justement tout à l'heure de la difficulté à établir les chaînes de responsabilité. Est-ce qu'à force de révélations de scandales, on commence à comprendre et en savoir un petit peu plus sur la façon dont fonctionne cette fameuse loi du silence, l'omerta dans le milieu sportif?
Et ça, on le sait depuis longtemps parce que c'est documenté par la recherche, notamment la recherche en sciences sociales. Encore faut-il que les décideurs politiques s'emparent de ces travaux de recherche. Mais oui, on sait que le monde du sport est sujet à une omerta en particulier parce que le sport, contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, parce qu'il s'abrite souvent derrière des valeurs universelles, de méritocratie, d'égalité, etc., c'est un monde extrêmement hiérarchique où les idéaux de performance, de réussite, de résistance à l'effort font que eh bien, on ne se plaint pas, il faut gagner des médailles. Et il s'y ajoute aussi la peur de parler, la peur d'être écarté des compétitions, surtout quand on est jeune et sous influence et qu'on est là sous l'autorité, j'ose pas dire ce mot, mais c'est quand même ça, la domination d'un entraîneur, une domination qui passe par le corps, il y a une prise de contrôle du corps de l'autre. Et quand on veut devenir champion ou championne de haut niveau, ça commence très jeune. Ça commence très jeune, on est très souvent éloigné de sa famille. Donc il y a un milieu qui est un peu fermé. La famille fait confiance à la structure sportive et à l'entraîneur. Et on constate, et ça aussi c'est documenté par la recherche, qu'il y a un conflit de loyauté pour les jeunes, pour les enfants qui voit que l'entraîneur veut tout faire pour qu'il réussisse, mais que si ça ne marche pas, eh bien il décevra à la fois les parents et le monde sportif. Et là, le fait aussi que le monde sportif eh bien fasse en sorte que la famille leur fait confiance, eh bien ça participe de la stratégie d'une manipulation qui passe par le corps, une domination qui passe par le corps, et ces idéaux de performance, de souffrance, de résistance à l'effort qui font que ça a été longtemps et ça reste encore, je crois, une omerta, un silence coupable. Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est spécifique au sport, c'est une gouvernance qui est quand même défaillante. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du refus d'établir la chaîne de responsabilité. Chacun se renvoie la balle, avec une très grande difficulté des clubs et des fédérations à prendre leur responsabilité. Par ailleurs, il y a une autre difficulté qui se rajoute à ça, qui est que le statut des protagonistes est très variable. Ça peut complexifier les choses. Certains protagonistes sont salariés d'associations, d'autres sont salariés de collectivités, d'autres sont fonctionnaires d'État ou détachés dans des fédérations, et beaucoup sont bénévoles. Et la question du bénévolat, c'est un problème quand même important parce que il y a une peur de la part du monde du sport de perdre son vivier de bénévoles si on met en place des processus de détection des brebis galeuses, j'ai envie de dire, de sanctions, de croisement des fichiers judiciaires, d'enquête sur le passé judiciaire des individus. Il y a une peur de perdre un vivier de bénévoles qui s'ajoute à toutes ces problématiques d'entre-soi, de vase clos. Tout ceci fait que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible parce qu'encore une fois, la loi existe, le droit existe et il suffit de l'appliquer.
Carole Gomez, Marie-Cécile Nave nous parlait d'une spécificité ou d'un milieu du sport et de mécanismes peut-être propices à ce que s'exercent certains rapports de domination, notamment dans le rapport entre un sportif mineur et puis son entraîneur. Est-ce que vous pensez que dans cette relation exclusive qui passe beaucoup par le corps, dans le cadre donc de la formation des futurs champions, est-ce que vous pensez qu'il y a là quelque chose qu'on peut revoir? Est-ce que c'est un système qui peut être remis en cause dans sa structure vraiment spécifique liée au milieu sportif?
Alors oui, effectivement, il y a des choses à faire, sinon ce serait quand même particulièrement déprimant de penser que c'est un combat sans fin et sans raison de le gagner. Peut-être un élément à rajouter sur tout ce qu'a dit Marie-Cécile Nave et qui est ô combien essentiel. Déjà, première chose, de façon générale, et là encore, la recherche a pu le démontrer, notamment la recherche en sciences sociales, il y a une véritable difficulté de parler d'une agression sexuelle, quelle qu'elle soit, en général, que ce soit dans le domaine du sport, mais plus largement de façon générale. Donc vous avez déjà, de base, une difficulté, une omerta qui est présente. Et là encore, et comme on le rappelait très justement Marie-Cécile Nave, le milieu du sport est d'autant plus spécifique et d'autant plus compliqué, puisqu'il s'agit non seulement d'un milieu hiérarchique, où vous êtes absolument prêt à tout pour gagner, et vous avez aussi cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête, puisque si vous dénoncez quelque chose, potentiellement vous pouvez risquer de tout perdre, de faire une croix sur votre avenir professionnel, sur vos rêves, sur ce pourquoi vous êtes entraîné pendant des années. Marie-Cécile avait tout à fait raison de préciser que le milieu du sport est un milieu hiérarchique, et puis là encore, rajoutons à cela des formes de domination entre l'adulte et l'enfant, puisque dans un certain nombre de cas, c'est les entraîneurs qui abusent d'enfants mineurs. Il y a aussi du coup cette domination entre l'entraîneur et l'athlète, hein, donc avec une forme de respect qui, dans certains cas, est clairement abusée. Et parfois, alors même si ça ne concerne pas l'exclusivité des cas d'agression sexuelle, mais il peut aussi avoir une domination genrée avec l'entraîneur souvent masculin, homme, qui va abuser de jeunes athlètes, de jeunes sportifs, et qui là aussi va donner une forme de domination.
Carole Gomez, spécifiquement sur ce rapport entre l'entraîneur tout puissant, parfois déifié, et les jeunes athlètes, est-ce que là vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut changer, ou est-ce qu'on est dans des rapports et des structures qui sont complètement inhérents à la compétition sportive, surtout la compétition de haut niveau, qui demande certains sacrifices, qui demande d'être parfois coupé de son milieu scolaire, familial, etc. Donc si on veut changer ça, est-ce qu'il faut peut-être même totalement changer le rapport qu'on a à la compétition elle-même? Sinon on ne changera pas les rapports entre entraîneurs et jeunes sportifs.
Alors effectivement, c'est une vraie question philosophique que vous posez là, même si à mon sens il peut y avoir, alors je ne suis pas sûre qu'on puisse changer cette envie de se dépasser, ce qui est propre, ce qui est intrinsèquement lié au sport. En revanche, il peut y avoir un certain nombre de dispositions, de plans de prévention qui peuvent être mis en œuvre avec une véritable prise de conscience. Et c'est d'ailleurs ce qui était très largement et très justement relevé dans le cadre du documentaire d'Arte dont vous parliez, mais également dans le cadre du documentaire Netflix qui s'appelle Athlète A et qui mettait en avant le fait que ces jeunes filles, en l'occurrence, mais également des jeunes garçons, ne savaient pas que leur entraîneur exerçait sur eux une pression, avait des activités extrêmement néfastes et parfaitement illégales sur leur corps. Et donc là encore, ça passe par la connaissance, par la sensibilisation, non seulement des athlètes, pour aussi qu'ils prennent une distance plus importante par rapport à leur entraîneur, même si c'est bien facile de le dire et bien plus compliqué à mettre en place, mais également, il y a aussi des stratégies de contrôle à l'égard des entraînants et à l'égard de plus largement de l'ensemble des instances qui encadrent l'activité sportive, avec des plans de formation, avec des plans de sensibilisation. Et là encore, pour se dire que cette omerta qui régnait il y a encore de ça quelques années, qui était où on savait que si des faits allaient se dérouler au sein d'une fédération, d'une ligue ou d'un district ou d'un club, les choses n'allaient pas sortir, et les choses vont évoluer, puisqu'il y a une libération de la parole, parce que des athlètes aujourd'hui, alors même qu'ils peuvent être encore dans le cadre de leur carrière, témoignent, dénoncent et même intentent des procès contre des personnes qui ont auparavant abusé d'eux. Et à mon sens, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui extrêmement important, puisque dans les différents reportages qui ont pu être réalisés et les différents témoignages qui ont pu être réalisés, souvent il s'agissait de faits datés de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et aujourd'hui, j'ai du moins l'impression qu'il y a aussi une vraie libération de la parole, alors avec la vague MeToo, mais également avec les réseaux sociaux, où il y a une vraie possibilité pour des athlètes encore présents sur les terrains ou dans les stades de se prononcer et de pointer du doigt quelque chose qui n'est désormais plus tolérable. Et là encore, c'est ce que disait, et je terminerai par ça, c'est ce que disait la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui pour la première fois, elle, a parlé d'omerta et qui a dénoncé justement cette omerta, et pour essayer de proposer des solutions sur ce sujet-là. Et là encore, c'est la peur doit changer de camp. Il ne doit plus y avoir de la part des sportifs et des sportives une crainte à dénoncer ce genre d'actes. Et là encore, le sport doit être là pour les préserver.
Alors, passer la révélation, passer le scandale, se pose ensuite la question de savoir comment le sport peut se réformer pour à l'avenir non seulement prévenir, faire remonter, mais empêcher le climat d'impunité. Si on reprend le cas du patinage, la nouvelle présidente de la fédération, Nathalie Péchala, a mis en place une nouvelle charte éthique de déontologie, des référents, un comité d'éthique. Est-ce que ces mesures-là vous semblent de nature à pouvoir empêcher la culture de l'impunité, Marie-Cécile Nave, ou est-ce que elles sont peut-être un peu insuffisantes pour changer vraiment, parce que vous nous l'avez décrit, c'est avant tout une question de culture, de mentalité, de rapport de domination. Voilà. Est-ce que des comités d'éthique et des chartes de déontologie peuvent être suffisants pour briser le système ?
Oui, c'est très bien. Ce qui serait bien aussi, c'est de faire en sorte que la loi soit appliquée. Pardon, j'y reviens, mais il y a un arsenal législatif ancien en France qui dit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire doit, si un fait de violence sexuelle est porté à sa connaissance, premièrement saisir le procureur de la République, deuxièmement engager une procédure administrative pouvant déboucher sur des sanctions. Or, les fédérations sportives ont une mission de service public. Et si les fonctionnaires ou agents publics, mais d'autres types de personnel aussi, hein, pas forcément fonctionnaires, commettent des crimes et des délits, ou s'il y a un soupçon de violence sexuelle, eh bien, ils sont tenus de le signaler.
Mais ils sont tenus, pardon,
en termes réglementaires.
Pardon, Marie-Cécile, vous dites la loi existe et elle doit s'appliquer, mais le fait est, et ces révélations nous le prouvent, que cette loi, elle ne l'est pas appliquée, et que les fédérations, d'ailleurs, c'est aussi une obligation d'avoir une charte de déontologie, et beaucoup n'en ont pas. Donc c'est pour ça que il faut peut-être se poser la question de est-ce qu'il faut de nouvelles lois pour forcer les fédérations à rendre des comptes, à faire remonter les informations. Et si c'est pas une loi, eh bien par quoi ça passe? Comment l'État peut contraindre le milieu sportif à appliquer ces lois qui existent, comme vous nous le rappeliez?
Alors, le ministère a un mode d'action qui est de retirer l'agrément, par exemple, à une fédération, si elle ne respecte pas un certain nombre de règles ou de normes.
C'est Et ça a déjà été utilisé ?
Qui existe. C'est assez peu utilisé. Il y a des rappels à l'ordre, mais c'est assez peu utilisé de retirer l'agrément. Ça veut dire retirer la possibilité d'organiser des compétitions, retirer les financements publics, etc. Je vais prendre un exemple pour dire comment on peut faire appliquer les choses. Tout cet arsenal juridique, il a été complété par la loi du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs. C'est une loi qui a été initiée par la ministre de l'Éducation nationale de l'époque et qui a modifié le code du sport, y compris pour les bénévoles. Tout de suite, les textes d'application ont été pris à l'Éducation nationale suite à cette loi pour faire remonter l'ensemble des informations concernant le casier judiciaire B2 et de croiser avec le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, c'est-à-dire le FIGES. C'est dommage que ça n'ait pas été fait dans le champ sportif. Donc on peut s'appliquer sur ce qui a été déjà fait à l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'à l'Éducation nationale, depuis 2016, on contrôle systématiquement le casier judiciaire, notamment B2, donc pas celui qui est demandé quand on veut postuler aujourd'hui un emploi de la fonction publique. Hein. C'est aussi des choses qui sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. Donc les 800 000 personnels de l'Éducation nationale ont vu leur fichier, leur casier judiciaire épluché et il y a eu un certain nombre de révocations. C'est difficile à faire pour les bénévoles, évidemment, encore une fois, parce que c'est plus difficile de savoir qui est bénévole, combien il y en a, de les répertorier. Puis il y a la peur de les perdre parce que le monde sportif fonctionne essentiellement grâce à ses bénévoles. Mais la loi le permet et le ministère, l'État, a la possibilité de sanctionner les fédérations si elles ne font pas, finalement, si elles ne respectent pas la loi. Et on peut s'appuyer sur cet exemple de l'Éducation nationale qui a éplucher l'ensemble des casiers judiciaires de ces personnels. Donc les outils existent, il faut des moyens, il faut une volonté politique et il faut encore une fois que du côté de la chaîne de responsabilité du sport, on accepte de prendre sa part. C'est-à-dire que les fédérations considèrent souvent, hein, pas toutes, mais enfin, bon...
Que ce sont des sujets secondaires, ou en tout cas qu'elles...
Que ce sont des sujets secondaires et que le ministère n'a pas à leur dicter leur conduite. Or, nul n'est à l'abri de la loi et chacun est censé respecter la loi. Pardon de répéter ça, mais tous les outils existent, il faut les appliquer.
En parlant d'outils et d'exemples, si on se tourne du côté des États-Unis, Carole Gomez, il y a un programme qui a été mis en place aux États-Unis qui s'appelle Safe Sport, qu'on pourrait traduire par sport en toute sécurité. Il a été mis en place après les scandales d'agression sexuelle dans le milieu de la gymnastique. Et c'est un programme qui permet de sensibiliser au sujet. Est-ce que vous pensez que c'est là une initiative intéressante? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce programme?
Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque ça va passer par, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la sensibilisation, la mobilisation d'un certain nombre d'outils déjà existants. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais bien au contraire de faire fonctionner des éléments qui existent déjà. Et c'est surtout, on va dire, l'accumulation des différents scandales qui a vraiment été déclencheur de cette initiative. Et Marie-Cécile le rappelait, il faut une véritable volonté politique à la fois au sein de l'État, mais également au sein des fédérations, de se saisir de ce sujet-là. On a beaucoup parlé de la fédération de gymnastique, de USA Gymnastics, qui était notamment mis en avant dans les différents reportage, mais il y a aussi la fédération de natation qui a été mise en cause, mais également d'autres, on va dire, révélations
très concrètement
qui arrivent en place.
Que permettent ces programmes donc de sport en toute sécurité au-delà de la sensibilisation? Est-ce qu'il y a aussi des garanties qui sont apportées à ceux qui vont dénoncer le milieu? Vous avez expliqué à quel point c'était une prise de risque pour les athlètes de dénoncer un entraîneur. Et est-ce qu'on a des exemples, des initiatives, des outils pour protéger la parole de ces lanceurs d'alerte?
Alors pour le coup, et ça, ça fait aussi référence à ce que aux travaux de Pim Verschuren qui était dans votre émission lundi et qui a aussi travaillé sur la question des lanceurs d'alerte et comment est-ce que les fédérations nationales comme internationales allaient mettre en place un véritable dispositif efficient de remontée d'alerte. Le tout étant, une fois qu'on a cette information, arriver à la traiter, arriver à la vérifier et ensuite prendre les décisions nécessaires. Pour le coup, l'exemple américain me semble intéressant, mais il y a aussi d'autres initiatives qui ont pu être menées dans d'autres États, et il y a même plus largement une réflexion, on entend de ci, de là, une volonté d'instance internationale, un peu sur le modèle de l'Agence mondiale antidopage, qui pourrait être créée pour on va dire, apporter des réponses à ce niveau-là. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut paraître intéressant, même si, à mon sens, c'est quelque chose qui me paraît complexe à mettre en œuvre pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les fédérations pourraient se sentir dépossédées de ses prérogatives, et on sait à quel point, et Marie-Cécile Nave l'a rappelé, à quel point le monde du sport aimait à se sentir indépendant et autonome, qui est un peu la structure sur laquelle il s'est construit. Et puis il y a aussi la question de le deuxième argument qui me semble important de souligner, qui est aussi la crise du multilatéralisme que l'on connaît aujourd'hui, et donc créer une institution internationale multilatérale à l'heure actuelle me semble peut-être un peu compliqué et relevé du vœu pieux, mais en tout cas ça ne doit surtout pas faire oublier les initiatives à l'échelle américaine que vous avez citée, mais également des initiatives à l'échelle dans d'autres pays. On peut penser par exemple au plan de prévention des violences qui a été mis en place par la Fédération française de handball et qui, lui, depuis 2018, a essayé de comprendre, trouver des solutions, et en octobre 2020 a lancé un plan autour de 5 axes, avec, et chose que l'on n'a pas forcément mentionné jusqu'à présent, le recours avec des partenariats extérieurs et notamment des associations qui, elles, connaissent parfaitement les problématiques qui se posent dans le monde du sport, mais également plus largement dans le monde judiciaire, et qui permettent d'avoir une vraie complémentarité dans l'approche qui va être faite. Dans le cas de la Fédération française de handball, il y a eu deux partenariats qui ont été signés. Le premier, c'est avec l'association Colosse au pied d'argile, et la seconde, c'est avec la Fédération France Victime, et qui permet vraiment à la Fédération française de handball d'être épaulée dans sa mission. Le premier élément qui me semble important à souligner, c'est que le monde du sport doit aussi prendre conscience de sa vulnérabilité et du fait qu'il ne peut pas être en capacité de gérer seul l'ensemble de ces problématiques avec toutes les dimensions que cela engendre. Et donc, à mon sens, ça me paraît aller dans le bon sens.
Et pour les fédérations ou les disciplines sportives où la prise de conscience reste difficile ou qui continuent de penser que ce n'est pas un sujet prioritaire, je reviens à cette idée que vous évoquiez d'une instance internationale qui pourrait exercer un contrôle, et peut-être sur le modèle de ce qui existe dans le domaine du dopage. Vous citiez l'Agence mondiale antidopage, Marie-Cécile Nave. Vous croyez à la naissance un jour d'une instance similaire? Rappelons quand même que l'Agence mondiale antidopage, certains critiquent, elle n'est pas parfaite, mais néanmoins elle a permis quand même des condamnations, comme récemment la Russie, on en parlait lundi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'efficience d'un niveau international pour agir sur les agressions sexuelles dans le sport?
Oui, Carole Gomez a tout à fait raison de parler de l'Agence mondiale antidopage et de parler d'une éventuelle instance qui soit indépendante, à laquelle le monde du sport serait associé, notamment le CIO, comme c'est le cas pour l'Agence mondiale antidopage. Mais c'est vrai qu'une instance indépendante qui travaille avec le sport mais qui n'est pas dépendante de lui permettrait d'aller dans le bon sens. Effectivement, elle a été décriée au départ, mais finalement, on voit bien que ça fait bouger les lignes, et puis c'est dissuasif aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la sanction, mais il y a aussi de la dissuasion. Un volet important en plus de la sanction et de faire appliquer les lois, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le sujet de la formation. Et il y a beaucoup de protagonistes du monde du sport, encore une fois, qui est très largement dépendant du bénévolat, qui ne sont pas forcément conscients, qui ne sont pas suffisamment formés, à recueillir la parole, à traiter la parole, à la répercuter, à effectuer un suivi. Et là-dessus, on pourrait imaginer que le monde du sport qui aime bien faire du benchmark, qui aime bien répertorier les bonnes pratiques dans le monde, eh bien, se mobilise pour financer un immense benchmark au niveau international, c'est-à-dire une comparaison des bonnes pratiques, pour qu'on puisse s'en inspirer dans tous les pays concernés. Enfin, je pense que ça concerne tous les pays, même si certains ont une omerta sans doute plus forte que d'autres, et que ça puisse se décliner, ruisseler jusqu'au niveau du petit club local, parce que c'est ça aussi qui compte. Et il y a des choses qui existent. Il y a la campagne Start to Talk du Conseil de l'Europe de 2018. Il y a une bonne pratique aussi au Canada qui a mis en place une unité d'enquête indépendante et une ligne d'assistance nationale confidentielle et gratuite pour les victimes et les témoins, et qui vise aussi à former l'ensemble des protagonistes du sport. Donc on pourrait déjà comparer ce qui existe au niveau international pour qu'on puisse s'en inspirer dans chacun des pays, dans chacune des fédérations. Et ça serait bien que, par exemple, le CIO ou les fédérations internationales de l'ensemble des sports olympiques financent ce type de travaux qui pourraient ensuite inspirer non seulement les gouvernements, les ministères, mais aussi les fédérations, les clubs et l'ensemble des organisations internationales en dehors du CIO. Donc oui, je crois qu'il existe beaucoup de choses dont on n'a pas forcément conscience parce que c'est pas forcément il n'y a pas forcément de communication dessus, mais je suis sûre que beaucoup de gens ont déjà inventé des dispositifs innovants, inspirants, qui pourraient servir à d'autres. Donc voilà, c'est bien que maintenant il y a aussi une multiplication des documentaires, des reportages. Le rôle des réseaux sociaux est extrêmement important, mais encore faut-il prendre la parole des victimes au sérieux. Encore faut-il mettre en place des outils de suivi de cette prise en compte de la parole et de suivi des sanctions, de suivi des mesures disciplinaires qui peuvent être prises pour que cette parole soit crédible et puis pour que les victimes continuent d'être encouragées à parler et puis les criminels soient découragés d'intégrer les instances sportives et de commettre leurs méfaits.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
On est avec vous, Marie-Cécile Nave et Carole Gomez, pour parler de la capacité du milieu sportif à se remettre en question après les nombreuses révélations d'agressions sexuelles. Est-ce que vous pensez, l'une et l'autre, c'est un débat qui existe, que s'il y avait davantage de femmes présentes dans les instances dirigeantes, eh bien ça changerait quelque chose sur le problème de la culture du silence, notamment, Carole Gomez?
Alors, pour le coup, il est clair que la question de la gouvernance du sport a de très larges progrès à faire, notamment compte tenu de la en termes de direction. Si je prends les derniers chiffres, il n'y a simplement que 3 présidentes à la tête de fédération olympique internationale sur 39, donc ce qui fait un peu moins de 10%. Et pareil en termes de vice-présidente de fédération olympique internationale, elles ne sont que 15, soit un tout petit peu plus de 10%. Donc là encore, il y a une vraie inégalité dans cette représentation des femmes dans les instances dirigeantes, et pas simplement à des postes de au sein de direction, mais plus largement au sein de postes à responsabilité et qui peuvent véritablement impulser des changements. Là encore, il est toujours une question de vers à moitié plein ou vers à moitié vide. En revanche, et beaucoup de reproches ont été faits, notamment au Comité international olympique, de voir que c'était qu'il y avait très peu de femmes dans des instances dirigeantes ou plus largement dans des commissions qui pesaient réellement. Il y a eu un vrai effort qui a été fait au cours des dernières années, puisque en l'espace d'une dizaine d'années, on est passé d'un chiffre qui était extrêmement faible, qui était de 20% de femmes au sein des 30 commissions, à 47% de mémoire en 2019. Donc là encore, ça montre qu'il y a un progrès qui est fait, même si à mon sens, c'est quelque chose qui doit encore se continuer et être perpétué. Sur la question des violences sexuelles, je laisserai Marie-Cécile Nave répondre parce que je pense qu'elle est bien plus compétente que moi sur cette question-là. En revanche, sur la question de la perception et du sexisme qu'il peut y avoir, indéniablement, un certain nombre d'études l'ont démontré, le fait d'avoir des femmes à des postes à responsabilité et qui peuvent arriver à impulser, être rôle modèle pour un certain nombre de pratiquants et pratiquantes, permet de réduire à une véritable influence sur les faits de sexisme qui peuvent exister. Plus vous allez avoir des femmes qui vont être haut placées dans la structure de votre club, de votre district, de votre ligue, de votre fédération nationale ou internationale, et plus les faits de sexisme vont baisser. Et donc c'est aussi ça qu'il va falloir porter, et en ce sens l'effort de féminisation au sein du sport n'est pas un vœu pieux ou une lubie de la part de quelques personnes. Ça a un vrai impact, effet, qui est d'ailleurs souligné par l'objectif 5 des ODD développé par l'Organisation des Nations Unies. C'est soutenu également
les ODD,
par
les objectifs du développement durable.
Les objectifs de développement durable, pardon. Oui. Mais également par un certain nombre d'initiatives portées par le Conseil de l'Europe, qu'a cité Marie-Cécile Nave, par l'Union Européenne à travers un certain nombre de projets, mais également par l'UNESCO dans un certain nombre de conventions qu'ils ont pu développer dans le plan Kazan, par exemple, plan d'action Kazan de 2017. Et donc ça va aussi dans ce sens-là. Donc la question de la représentation est, à mon sens, essentielle, toujours pour avoir cette capacité de rôle modèle et pour aussi impulser quelque chose de nouveau. Mais Marie-Cécile Nave, avec son dernier ouvrage, pourra dire bien plus.
Parce que c'est vrai que Marie-Cécile Nave, être une femme, il ne faut pas être naïf, ne garantit pas à la personne d'être intègre sur les rapports de domination, sur la non-dénonciation des crimes. Mais comment est-ce que, néanmoins, voilà, certains pensent quand même que s'il y avait plus de femmes dans les instances dirigeantes, eh bien, peut-être les choses seraient un petit peu différentes. Comment est-ce que vous vous situez sur ce débat ?
Oui, c'est sûr qu'il faut éviter le piège essentialiste en disant les femmes sont plus vertueuses que les hommes. Il y a deux.
Qui pourrait en plus dédouaner d'autres mesures plus coercitives et tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, de dire voilà, il suffirait de mettre des femmes et ça va résoudre le problème.
Oui, voilà. En fait, l'absence de parité, le problème de la parité est révélateur d'un manque de transparence, d'un manque de démocratie, d'un manque de renouvellement au sein des fédérations sportives. Là, ça, c'est la Cour des comptes en France qui le dit. C'est-à-dire que c'est un milieu qui fonctionne vraiment en vase clos, c'est un entre-soi, il y a beaucoup de népotisme, il y a beaucoup de solidarité au sein de ce milieu, qui explique aussi le fait qu'on ne dénonce pas, qu'on n'a pas suffisamment dénoncé les violences sexuelles et qu'on n'a pas suffisamment sanctionné les auteurs présumés ou reconnus de violences sexuelles. Par exemple, toutes les fédérations françaises, j'imagine que c'est pareil à l'étranger, n'ont pas dans leur statut la possibilité de limiter les mandats dans le temps. Et parfois, certains sont à leur sixième ou septième mandat de président ou de vice-président.
Et c'était le cas notamment pour le patinage, pardon, le Didier Gaillaguet, qui était là depuis 19 années et qui est parti après les révélations de Sarah Abitbol, mais qui est parti en disant publiquement qu'il partait sous la contrainte et la pression du ministère, mais que vraiment il ne voyait pas les raisons pour lesquelles il devait laisser sa place.
Eh bien, la raison, c'est que peut-être il faut un renouvellement. Pourquoi on n'applique pas au monde du sport? Pourquoi le monde du sport ne se remet-il pas en question par rapport au monde, contrairement au monde politique, au monde économique, finalement à toutes les autres sphères de la société où on veut plus de démocratie, plus de renouvellement et plus d'ouverture aussi à d'autres types de compétences? Pourquoi parce qu'on a été un ancien sportif, on serait un meilleur dirigeant du monde sportif que quelqu'un qui a un autre parcours, qui a une autre expérience? Donc, d'une manière générale, ce problème de l'endogamie, de l'entre-soi des fédérations sportives est colossal et explique en grande partie la loi du silence qui est encore de mise. Donc oui, la parité, l'absence de parité, c'est un des symptômes de ça. Et le fait que c'est un monde qui ne s'ouvre pas à d'autres types de compétences, qui reste fermé sur lui-même. Et donc, il y a un gâchis de talent, il y a un gâchis de compétences. Et il y a un refus, finalement, d'être en prise avec les évolutions sociales. Donc, ce n'est plus acceptable socialement aujourd'hui. Il y a un problème d'acceptabilité sociale de ce type de fonctionnement, dont l'absence cruelle des femmes, et encore une fois, dans le non-respect de la loi de 2014 pour ce qui concerne la France, est un des symptômes.
Restez avec nous, Marie-Cécile Nave, Carole Gomez. Je vous propose qu'on aborde maintenant une autre réglementation, assez méconnue mais très controversée dans les compétitions mondiales, les tests de féminité.
Found few weeks
Quelques semaines avant mon départ pour les Jeux Olympiques de Londres, j'ai reçu un appel du responsable de mes compétitions internationales. Il m'a dit que mon échantillon de sang présentait un problème technique. Il m'a dit « Tu ne peux pas participer à cette compétition ». Les responsables locaux de ma fédération m'ont dit « Tu dois rester chez toi, ne bouge pas. Si l'on te pose des questions, dis-leur que tu es blessé. » Pourtant, je n'avais aucune blessure. J'étais très normale, je n'étais pas malade.
Voilà, c'est l'un des nombreux témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch dans un rapport paru début décembre. Et si Annette Negesa, la coureuse ougandaise de haut niveau que nous venons d'entendre, eh bien, n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques de 2012, c'est qu'elle a subi ce qu'on appelle un test de féminité, un test qui a révélé un taux de testostérone supérieur à la limite officielle fixée pour les athlètes féminines. Et de nombreuses voix aujourd'hui appellent le CIO, le Comité International Olympique, à cesser les tests de féminité, une pratique jugée discriminatoire et pourtant atteinte à la dignité des athlètes. Alors, à quoi servent ces tests? Depuis quand existent-ils? Et quelles conséquences pour les athlètes? Une nouvelle invitée nous a rejoint pour en parler. Anaïs Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en sociologie et histoire du sport à la faculté des sciences du sport de l'université Paris-Saclay. Vous êtes l'autrice de Le test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X aux éditions IIX, paru en 2012. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà, ne serait-ce qu'est-ce que c'est qu'un test de féminité et depuis quand est-ce qu'ils existent dans les compétitions sportives?
À partir des années 1930 notamment, on a vu apparaître sur les terrains sportifs des athlètes moins conformes aux critères normatifs de la féminité, c'est-à-dire qu'elles vont être jugées trop grandes, trop musculeuses, sans hanches, sans seins. Et très vite, les médias et les institutions sportives et scientifiques vont mettre en doute l'identité sexuée de certaines d'entre elles. Et pour respecter la bicatégorisation sexuée homme-femme, et dans un souci affiché de vouloir débusquer d'éventuels hommes déguisés, même si d'ailleurs, c'est important de le dire, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du sport de compétition, des contrôles de sexe vont apparaître dans les années 60. Plus précisément, pour la première fois en 66, ce sont des contrôles morphologiques et gynécologiques qui vont être mis en place, c'est-à-dire que toutes les femmes devaient passer nues devant un médecin pour montrer leur appareil génital, et elles devaient aussi presser un dynamomètre et souffler dans un spiromètre afin d'évaluer respectivement leur puissance musculaire et leur capacité respiratoire, qui devait rester très explicitement en deçà des capacités masculines. Beaucoup de sportifs vont se plaindre de cette obligation, vont la juger humiliante, et les scientifiques et les dirigeants sportifs vont mettre en place un nouveau test en 1968 pour les JO d'été de Mexico, puis d'hiver de Grenoble. C'est le test de féminité appelé le test de corpuscule de Barre. Il va être question non plus de regarder et d'évaluer le sexe apparent, mais d'observer le sexe chromosomique et d'aller chercher avec un karyotype, s'assurer que les femmes étaient bien chromosomiquement XX pour participer. Or, le monde du sport va découvrir l'intersexuation, à savoir des personnes qui sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions et visions binaires type des corps masculins ou féminins. C'est-à-dire que certaines athlètes vont pouvoir être XXY, par exemple. Ce test va être jugé, remis en cause, va être jugé très peu fiable, peu éthique, peu juste. Et donc la Fédération internationale d'athlétisme, dans les années 90, va supprimer ce test, mais le CIO persiste, met en place un troisième test, le test PCR-ACRY, qui vise cette fois-ci non pas à s'assurer que les femmes ont bien un deuxième X, mais elles vont chercher à révéler la présence éventuelle d'un chromosome Y. À nouveau, ce test va poser question, ne règle pas la question et la problématique de l'intersexuation. Beaucoup de critiques vont être émises et le test va être supprimé. Les JO de Sydney en 2000, et aujourd'hui, en cas de suspicion, de doute visuel, nous sommes sur des tests hormonaux, toute cette histoire a explosé avec l'histoire des castors féminins.
C'est ce qui est frappant dans ce que vous nous expliquez, Anaïs Bouillon, c'est qu'on a l'impression que les médecins du sport ne savent pas finalement sur quels critères définir une femme.
Absolument. Ils ne parviennent pas plus, si vous voulez, plus ils ont essayé de mettre en place des tests, puis ils cherchent à définir ce qu'ils appellent, entre guillemets, la vraie femme, moins ils trouvent. puisqu'on est passé d'abord par le sexe apparent et le sexe morphologique, on a vu que ça ne tenait pas, ils sont passés par le sexe chromosomique, ça ne tient pas, et aujourd'hui ils sont sur le sexe hormonal, ils essayent de définir ce qu'est une vraie femme au niveau des taux hormonaux, notamment de la testostérone.
Vous avez évoqué le cas de Caster Semenya, c'est donc une coureuse sud-africaine, triple championne du monde, double championne olympique. En 2019, elle est interdite de participation aux mondiaux d'athlétisme de Doha, car le test la qualifie de athlète hyper androgène. Très concrètement, donc Caster Semenya a refusé. Alors, on lui a proposé de suivre un traitement hormonal pour pouvoir participer. Elle a refusé. Est-ce que ça veut dire que d'autres athlètes, elles, acceptent de suivre des traitements hormonaux pour ensuite participer aux compétitions?
Oui. Oui, oui, tout à fait. On parle beaucoup du cas de Caster Semenya parce que justement, c'est une des athlètes qui a refusé ses traitements hormonaux. Mais il n'y a pas que Caster Semenya, il y a aussi, on a tendance à oublier, mais celle qui a vraiment, qui est parvenue d'ailleurs en 2015 à suspendre ses règlements, c'est l'athlète Dutee Chand, c'est une sprinteuse indienne, qui a refusé de se soumettre à cette hormonothérapie parce qu'il faut dire ce qui se passe. C'est-à-dire que ces règlements imposent une hormonothérapie à ces athlètes et vise à réguler leurs taux hormonaux qui sont, il est très important de le rappeler, des taux hormonaux naturels. Il n'en va pas du tout de la question du dopage. Et donc, elle a déposé plainte auprès du tribunal arbitral du sport de Lausanne, car pour elle, l'avantage physique, si vous voulez, que procurerait la testostérone qui est produite naturellement par son corps n'a aucun fondement scientifique. Et d'ailleurs, elle a gagné en juillet 2015, le tribunal arbitral du sport lui a donné raison, l'a autorisée à concourir. En revanche, en avril 2018, la Fédération internationale d'athlétisme a toutefois durci les règles, et on est encore dans ce règlement, d'éligibilité pour ces compétitions, et désormais, une athlète est officiellement considérée comme femme si elle présente un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre de sang. En fait, ils ont réduit aussi les disciplines concernées du 400 mètres au mile. Et on peut même se poser la question si ce n'est pas, d'ailleurs ce sont les disciplines sur lesquelles s'aligne Semenya, si Semenya n'est pas directement ciblée. Et on est encore, cette problématique est extrêmement contemporaine, puisque Caster Semenya a engagé à son tour auprès du tribunal arbitral du sport une procédure pour contester ses règlements. Le tribunal du sport, arbitral du sport, cette fois-ci a donné raison à la Fédération internationale d'athlétisme. Semenya vient très récemment de faire appel devant le tribunal fédéral suisse. Elle a à nouveau perdu. Elle a été interdite de participer au championnat du monde de 2019 de Doha, avec d'autres qu'on a tendance à oublier sur 800 mètres, comme la coureuse kényane Margaret Wambi, ou alors encore l'athlète du Burundi Francine Nyansaba, sauf si elles acceptent ces fameux traitements médicamenteux pour diminuer leur taux de testostérone, et j'insiste, qui sont des taux produits naturellement par leur
mais
corps.
Comment est-ce que vous, Anaïs Boyon, vous nous expliquez que le taux de testostérone, il n'est pas prouvé que ce taux a un impact sur la performance sportive. Alors comment est-ce que vous expliquez que les instances comme le Comité international olympique persistent à vouloir fixer une sorte de plafond du taux de testostérone pour les athlètes féminines et à penser qu'il y aurait une distorsion ou une inéquité entre sportifs si ces taux sont trop différents?
Alors, je pense qu'il faut revenir au fondement et il faut faire un petit peu d'histoire du sport pour comprendre ce qui se joue. Si vous voulez, la non-mixité est prônée par la plupart des institutions sportives comme vous le dites, une garantie d'équité dans un contexte de compétition. Les participantes à l'origine du sport, de compétition, sont sélectionnées et elles sont autorisées à s'affronter au sein de sous-groupes structurés en fonction de divers critères. Donc la performance, différents types de handicap, l'âge, le poids dans certaines disciplines comme les sports de combat et le sexe. Et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que pourquoi on a catégorisé? On a voulu réguler en amont les avantages physiques. On répond, ce qui fait la beauté du sport, c'est la garantie d'une incertitude du résultat qui est au fondement de toute compétition. Et on part du principe que les corps masculins et féminins, ils sont explicitement hiérarchisés et que cette hiérarchie, elle est naturalisée selon le principe que les hommes seraient biologiquement plus rapides, plus puissants, plus endurants. Et du coup, l'établissement des performances de Semenya et d'autres, ou des hommes d'ailleurs, va devenir une forme de preuve symbolique de la supériorité des corps masculins, là où, et c'est le cas de Semenya, les performances des femmes viennent accréditer leur masculinisation. Et c'est ce pourquoi le sport cherche à déterminer à tout prix la différence entre les hommes et les femmes. Et lorsque vous avez des athlètes comme Semenya qui excellent, survolent leur discipline, se rapprochent des hommes tant dans leur performance, mais pas que, parce qu'il en va aussi du fait qu'elles se rapprochent dans leur morphologie, les instances dirigeantes sportives effrayées que cette bicatégorisation par sexe qui est censée respecter l'incertitude du résultat vole en éclats.
Est-ce que vous pensez, Anaïs Bouillon, qu'il faudrait tout simplement remettre en cause cette bicatégorisation, donc avec des compétitions réservées aux hommes, des compétitions réservées aux femmes? Est-ce que, en suivant vos raisonnements, on arrive un peu à cette idée-là que il faudrait finalement peut-être de la mixité dans la compétition internationale?
Tout à fait. Alors, c'est absolument impossible à très haut niveau, pour la simple et bonne raison que, pour moi, les femmes sont socialisées, éduquées, mettent leur corps en mouvement, je vais passer vite, mais de manière, dès qu'elles sont jeunes, hein, dans les structures d'entraînement, de manière complètement différente des athlètes masculins. Et ce que je voudrais dire, et qui est important et qu'on a tendance à oublier, c'est que cette remise en cause de la mixité, c'est un faux débat. Car les athlètes dont on parle, hein, Caster Semenya, Dukichan ou d'autres, restent extrêmement éloignés des records masculins. On a bien vu donc que le problème pour les instances dirigeantes, c'est la remise en cause de cette fameuse division binaire des sexes. Or, Caster Semenya, par exemple, elle court en 1 minute 55 secondes le 800 mètres et elle est à 15 secondes des records masculins. Si elle était invitée à concourir dans la catégorie homme, d'ailleurs le règlement l'invite, hein, si elle n'accepte pas de réguler ses taux hormonaux, elle est invitée à aller concourir dans la catégorie homme, ce qui nie d'abord, déjà, ce qui est d'une violence symbolique incommensurable parce que ça nie son identité de femme, mais quand bien même, elle ne serait même pas qualifiée au championnat de France masculin. Pareil pour Dukichand. En fait, la façon dont ces sportifs sont socialisés, éduqués, entraînés et se vivent en tant que femmes, sans compter hein, l'injonction à la maternité ou le fait qu'elle n'ait pas les mêmes accès aux infrastructures sportives, à la professionnalisation que les hommes, tout cela rend impossible aujourd'hui de voir une femme, surtout sur 800 mètres, hein, se rapprocher très dangereusement des performances masculines. Et je vais passer vite, mais juste, si on se plonge dans l'histoire du sport et on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, on se rend compte à quel point les femmes ont subi ce qu'on peut appeler une désportivisation et qu'on a tout fait pour qu'elles ne puissent pas se mesurer aux performances masculines. On pourrait se poser la question, pourquoi faire 2-7 et pas 3-7? Pourquoi des poids de 4 kilos et pas de 7 kilos, etc. Je pourrais multiplier à l'infini les exemples. Qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie.
Merci beaucoup Anaïs Bouillon, professeure des universités en sociologie et histoire du sport à la faculté des sciences du sport de l'université Paris-Saclay. Merci de nous avoir éclairé sur cette question des tests de féminité. Je rappellerai, vous êtes l'autrice de Le test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X aux éditions IXE, parue en 2012. Et puis merci infiniment à nos deux invités qui nous ont suivis tout le long de cette émission. Marie-Cécile Nave, politologue, directrice de recherche à l'IRI. Carole Gomez, également directrice de recherche à l'IRIS. Je rappellerai Marie-Cécile Nave, votre ouvrage « La démocratie féministe réinventée, le pouvoir » paru chez Kalman Levy cette année en 2020. Toutes les références évidemment sur notre site. Dans un instant, La Grande Table, présentée cette semaine par Maëlys Besserie.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture. L'esprit d'ouverture.